Nous voilà donc à un moment de bascule. C'est toujours un peu difficile pour les orateurs du début d'après-midi d'affronter une salle ce début d'après-midi, justement. Donc, nous sommes à ce moment de bascule un peu incertaine dans la torpeur du début de l'après-midi, bascule entre le matin et l'après-midi. Bascule entre l'approche, somme toute, conceptuelle et générale du matin et la dimension de l'après-midi qui est peut-être plus concrète, plus spécialisée, en tout cas ancrée dans la pratique professionnelle des uns et des autres. Bascule encore entre une matinée tournée vers l'action administrative et une après-midi qui est plutôt tournée vers le juge. Sans qu'il puisse y avoir, bien sûr, d'opposition manichéenne entre les deux. Je ne dis pas que l'on parlait théorie ce matin et qu'on parlera pratique cet après-midi. Je ne dis pas non plus que l'on parlait administration ce matin, que l'on parlera juge cet après-midi. En vérité, nous continuerons, je crois, dans le prolongement de ce qui était déjà présent dans nos débats ce matin, à parler de toutes ces dimensions, ce qui est bien naturel, tant elles sont entremêlées et qu'on ne peut séparer de façon étanche ce qui vaut pour l'administration et ce qui vaut pour le juge administratif. Car si l'administration doit agir dans l'intérêt général, si l'intérêt général est la boussole de l'action administrative, il est normal que le juge administratif soit le juge de l'intérêt général parce que sa mission, ça a déjà été dit ce matin, parce que sa mission, c'est de veiller à ce que l'administration reste dans son lit, à ce que l'administration n'excède pas ses pouvoirs. Et en dernière analyse, dans ce dialogue entre l'administration et son juge, c'est au juge administratif qu'il appartient d'identifier la substance de l'intérêt général, de s'assurer que l'action administrative est bien justifiée par la poursuite d'un intérêt général, et de faire au besoin la balance entre le poids de l'intérêt général poursuivi et la nécessaire protection des intérêts particuliers susceptibles d'en être froissés ou d'être remis en cause par l'action conduite dans l'intérêt de tous par l'administration. J'y insiste à mon tour, mais Gaël Dumortier l'a fort éloquemment dit ce matin, la mission historique du juge administratif est ainsi de rechercher constamment l'équilibre entre l'intérêt général, entre ce qui importe dans son ensemble, ce qui importe pour l'ensemble, et les intérêts particuliers, entre les avantages qui découlent de l'action administrative pour la société dans son ensemble et les inconvénients qui peuvent en résulter pour les intérêts privés des particuliers. C'est un exercice un peu d'équilibrisme, c'est une ligne de crête qui n'est pas toujours simple à tenir. Mais après, il reste le plus difficile, c'est-à-dire savoir ce que recouvre concrètement, précisément, la notion d'intérêt général et comment la notion est utilisée dans notre pratique professionnelle. Ce n'est pas simple parce qu'il n'y a pas, je crois qu'il ne peut pas y avoir, une tentative ce matin de typologie, mais je crois qu'il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir un catalogue fini des déclinaisons de l'intérêt général. Ce n'est pas simple non plus parce que les sources d'inspiration, et il en a été là aussi abondamment question ce matin, les sources d'inspiration de l'administration et du juge sont multiples. Le juge ne trace pas seul le cadre de l'intérêt général. Ce dernier est très largement dessiné, marqué, orienté par les choix du législateur, lesquels sont eux-mêmes tributaires des exigences constitutionnelles, du droit de l'Union et des autres engagements internationaux de la France. Et comme il a été là aussi dit, il est évolutif. Ce qui hier n'était pas reconnu comme étant d'intérêt général peut le devenir demain. Ce n'est pas simple, enfin, et j'ajouterais surtout, parce qu'il ne suffit pas de trouver une finalité à qualifier d'intérêt général pour être quitte. L'intérêt général, ce n'est pas juste une sorte de slogan passe-partout. Ce qui importe, c'est de trouver, d'identifier l'intérêt général pertinent. J'en donnerai deux exemples historiques, mais qui ont des prolongements aujourd'hui. Pour un ministre des Finances, je me tourne vers ma voisine, agir pour économiser l'argent public consiste évidemment à agir dans un but d'intérêt général, a fortiori lorsque les finances publiques sont dans une situation difficile. Pour autant, agir dans l'intérêt financier de l'État ne vaut pas nécessairement brevet de légalité. Encore faut-il que cet intérêt constitue bien un intérêt général pertinent. Ce n'est pas d'hier que le Conseil d'État l'a jugé. Il l'a fait par exemple, et en s'inscrivant déjà dans le sillon d'une jurisprudence existante, il y a 150 ans, aux conclusions d'Édouard Laferrière, dont M. le Président Molinier, l'œuvre, la vie et les conclusions ont été joliment évoquées hier dans cette salle. Dans un contexte financier tendu, nous sommes en 1872, alors qu'il faut verser à l'Allemagne un tribut de 5 milliards de francs or, en application du traité de Francfort. Une instruction du ministre des Finances au préfet leur demande en substance de mettre en œuvre ce qui est l'ancêtre de la législation sur les installations classées, la loi sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, pour fermer administrativement les fabriques d'allumettes, éviter par ce biais l'indemnisation de leurs propriétaires, dans le cadre d'une loi de 1872 qui avait établi un monopole public pour la fabrication des allumettes et qui décidait en conséquence l'expropriation des fabriques. Cette instruction du ministre des Finances poursuivait d'une certaine façon une finalité d'intérêt général. Mais ce faisant, elle conduisait très directement l'administration à faire usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui avaient été confiés. Agir dans un but d'intérêt général, alors que cet intérêt général n'est pas pertinent et constitutif d'un détournement de pouvoir. Vous aurez reconnu là des arrêts qui sont en bonne place aux grands arrêts de la jurisprudence administrative, monsieur le professeur. L'autre exemple concerne le principe d'égalité. On sait que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment. On sait aussi que lorsque les situations ne sont pas différentes, le traitement ne peut normalement pas être différencié. Sauf si un intérêt général justifie de favoriser certains par rapport à d'autres. Et il faut alors, sauf à justifier n'importe quelle discrimination, que l'intérêt général invoqué soit en rapport avec l'objet de la mesure. Là aussi, il ne suffit pas de trouver un intérêt général quelconque, il faut trouver l'intérêt général pertinent. Donc en ce début d'après-midi, nous allons partir à la recherche de l'intérêt général pertinent. Et pour cela, nous allons procéder par l'exemple, par l'illustration, en multipliant les angles et les points de vue, en cherchant à voir comment cette recherche est menée, comment elle est perçue, comment elle est pratiquée. Du point de vue de l'administration, en amont de la saisine du juge, du point de vue des parties au procès, du point de vue du juge lui-même, et ce, en croisant les regards d'une directrice d'administration centrale, d'un avocat, d'un chef de juridiction et d'une professeure des universités. Tout ne commence pas avec la saisine du juge. L'administration en amont prend ses responsabilités. Elle décide, en prenant parti sur l'intérêt général, qu'elle poursuit. La direction des affaires juridiques des ministères financiers, comme d'autres, peuvent l'aider dans l'identification de l'intérêt général pertinent, dans la détermination de ce qu'il induit, de ce qu'il permet, de ce qu'il contraint. Laure Bédier nous parlera ainsi, dans un premier temps, à partir de l'expérience concrète de sa direction, de cette pédagogie de l'intérêt général au sein de l'administration en amont de la saisine du juge. Puis du précontentieux, nous passerons plus directement à l'exercice contentieux en nous tournant d'abord vers les parties au litige. Et Cyril Cascara nous guidera dans cette recherche, nous parlera du maniement de l'intérêt général dans le cours de l'instruction des affaires devant le juge administratif. L'affaire instruite, elle vient à être jugée. L'interrogation centrale devient alors comment le juge prend-il en compte l'intérêt général dans l'acte de juger ? Nous en parler sera la mission de Jean-Christophe Duchon-Doris. Et enfin, nous terminerons notre promenade sur ce chemin de découverte avec Olga Mahmoudi, qui nous parlera en quelque sorte du service après-vente, ce qui vient après le moment où, stricto sensu, le point est jugé. Elle nous parlera alors de la recherche de l'intérêt général qui peut présider aux décisions du juge, soit immédiatement, soit plus tard, lorsqu'il décide de moduler dans le temps les effets de ses décisions, lorsqu'il ouvre la voie à une régularisation de la décision administrative ou encore lorsqu'il s'occupe de l'exécution de ses décisions. Voici notre chemin. J'ai beaucoup parlé et sans plus attendre, je passe la parole à ma voisine de droite.
Merci, Monsieur le Président. Peut-être en propos liminaire, quelques éléments sur le rôle de la direction des affaires juridiques de Bercy, puisqu'en fait, nous ne faisons pas du tout ou très peu de contentieux administratifs. Et notre rôle se situe vraiment en amont du contentieux à travers une fonction de conseil. En fait, on rend chaque année environ 1000 consultations par an sur des sujets extrêmement divers, car Bercy, à travers le prisme budgétaire et financier, s'occupe d'un certain nombre de sujets. Comme toutes les fonctions de conseil, on a donc un rôle dans la prévention du contentieux, mais on est essentiellement saisi de textes législatifs. On a assez peu de textes réglementaires qui sont, eux, traités et examinés par les directions métiers. Et donc, notre rôle de prévention du contentieux au regard de l'Office du Conseil d'État est donc essentiellement à travers la prévention des QPC et puis du contentieux du droit conventionnel. Il reste que la notion d'intérêt général est souvent centrale dans les décisions qui mettent en jeu les intérêts économiques. Et donc, c'est une notion qu'on retrouve à peu près dans la moitié de nos consultations que nous faisons chaque année. Alors, en pratique, on est saisi donc de projets de texte dont on doit évaluer la sécurité juridique et on utilise l'intérêt général comme norme de contrôle de la légalité de la proposition qui nous est soumise de manière très classique. Et cette légalité est examinée au regard du droit interne et au regard du droit européen et même de plus en plus souvent maintenant au regard du droit de l'OMC. Ce qui nous amène en fait à manier des notions d'intérêt général qui diffèrent puisqu'elles ne sont pas identiques en droit interne et en droit européen, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser certaines difficultés. Donc la première étape de l'analyse de la direction des affaires juridiques, comme je vous le disais, est donc l'identification de la légalité d'une mesure au regard du droit interne et l'identification des éventuelles atteintes à des principes constitutionnels portés par la mesure envisagée. Alors, sur les sujets de régulation économique au sens large, qui couvrent notamment, comme ça a été rappelé, la nécessité de faire des économies budgétaires, les principaux principes mis en jeu sont le principe d'égalité, avec sa déclinaison d'égalité devant les charges publiques, le droit de propriété, puis les droits issus de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire liberté d'entreprendre sous ces deux aspects, liberté d'exercer une activité et liberté dans les conditions d'exercice, la liberté contractuelle et le maintien des contrats en cours. Donc une fois les atteintes à ces grands principes identifiées, et c'est relativement facile, reste trois étapes à franchir pour sécuriser la mesure envisagée qui sont beaucoup plus complexes. Donc la première, c'est l'identification d'un intérêt général. Je ne reviendrai pas ce qui a été dit ce matin sur le caractère très protéiforme de cette notion et très évolutive. Ce qui complique aussi la chose, et ça a été rappelé à l'instant, c'est que la notion d'intérêt général au sens contentieux du terme est une notion qui n'est pas toujours facile à expliquer aux responsables politiques qui légitimement considèrent qu'ils agissent et qu'ils n'agissent que dans l'intérêt général. C'est également parfois un peu compliqué à expliquer à certaines directions métiers qui sont toutes plus tournées vers l'opérationnel et dont la culture juridique est parfois un peu moins forte. Et donc, c'est souvent à la direction des affaires juridiques, une fois identifiés ces principes à des atteintes constitutionnelles, à des principes constitutionnels, pardon, qu'il revient d'identifier un intérêt général, ce qui nécessite très concrètement d'avoir une bonne compréhension du mécanisme qui est proposé, ce qui n'est pas toujours non plus évident. Parce que, comme je vous l'ai dit, les sujets sont très divers. Pour vous donner un exemple, on a travaillé récemment sur les articles du PLFSS, sur l'arrêt de commercialisation des médicaments pour inciter les entreprises à trouver un repreneur, donc l'application de la loi Florange, et sur les pénuries de médicaments dits essentiels qui permettent à l'AGEPS, donc l'établissement de la PHP, de produire ces médicaments, donc avec des problématiques d'atteinte à la liberté d'entreprendre et de liberté contractuelle. Ce qui nous a d'ailleurs conduit à proposer une évolution du dispositif qui était initialement envisagé. Alors, sur l'intérêt général susceptible d'être invoqué, l'adage ne fait pas de distinction à ce stade entre les principes qui ont une valeur constitutionnelle et ceux qui n'en ont pas. La distinction, c'est plutôt entre ceux qui ont déjà été consacrés par la jurisprudence, et qui sont d'ailleurs souvent avancés par les directions, et ceux qui ne l'ont pas été, mais qui sont pertinents. Et c'est là l'exercice qui n'est pas évident, encore une fois, puisque c'est une notion difficile à cerner. Alors, pour vous donner des exemples des motifs les plus souvent invoqués, je distinguerai les objectifs généraux de ce qu'on pourrait appeler des objectifs sectoriels. Parmi les objectifs généraux, mais qui ne sont pas les plus souvent mobilisés, on peut citer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, qui est mobilisé lorsqu'on sont en jeu les intérêts économiques de la nation. C'est par exemple ce qui a été utilisé pour la loi dite Huawei, ou encore toute la réglementation autour des opérateurs d'importance vitale, les OIV, qui mettent en cause la liberté d'entreprendre et l'usage du droit de propriété. Autre motif souvent invoqué, mais rarement retenu, la préservation de l'ordre public économique. Donc peu souvent retenu, sauf peut-être sur les sujets ultramarins. Il est également souvent invoqué le déséquilibre des relations contractuelles. C'est une notion qu'on retrouve en matière de grande distribution, notamment d'assurance. Et puis enfin, une notion d'apparition plus récente, le bon usage des deniers publics. Alors, c'était connu en matière de mesures rétroactives ou de lois de validation, un peu moins comme un motif permettant de porter atteinte à un certain nombre de libertés constitutionnelles, et qui est apparu donc récemment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc, à côté de ces motifs généraux, il y a aussi des motifs plus sectoriels, des démembrements propres à certains secteurs. Alors, on a évoqué la protection de la santé, protection des consommateurs, longuement évoquée ce matin, qui est très souvent mobilisée pour des projets qui portent atteinte à la liberté d'entreprendre, notamment dans le secteur de l'énergie, on en a longuement parlé, ou lorsqu'on a une atteinte au contrat en cours. C'est un motif qui a été mobilisé notamment pour le droit de résiliation annuelle des contrats d'assurance emprunteur. Protection de l'environnement, donc là aussi ça a été évoqué, qui est devenu un objectif à valeur constitutionnelle et qui est de plus en plus souvent sollicité, notamment au niveau européen. Et puis on a des motifs sectoriels qui sont de plus en plus sectoriels. On a ainsi le motif de production d'énergie hydroélectrique contribuant au développement des énergies renouvelables qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel en 2022, ou encore, à titre d'illustration, la fixation des prix de vente de tabac, l'objectif de lutte contre la contrebande et les contrefaçons. Ça, c'est une décision du Conseil d'État de 2016. Mais en pratique, on est conduit la plupart du temps à mobiliser plusieurs motifs pour justifier la mesure, donc protection de l'environnement et protection de la santé, par exemple pour les questions autour de la valorisation des produits bio, ou pour soutenir un motif financier, puisque même si le motif financier donc, est apparu récemment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n'est pas apparu seul, il est apparu avec d'autres principes. Et c'est ainsi que sur la réduction du tarif d'achat d'électricité photovoltaïque, le Conseil a retenu donc le déséquilibre des relations contractuelles et l'effet d'aubaine au détriment du bon usage des deniers publics. Nous avions pour notre part aussi pensé à la nécessaire diversification des énergies renouvelables, mais ça n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel. Donc, première étape, identification de l'intérêt général avec les difficultés que ça implique. La deuxième étape, mais ça a été aussi évoqué à l'instant, c'est le lien entre l'intérêt général invoqué et la mesure proposée. Et parfois, on a tendance à évoquer un intérêt, enfin, les directions métiers ont tendance à évoquer un intérêt général dont le lien avec la mesure proposée est assez distendu. Et donc, c'est important, ça a été également rappelé, en matière d'égalité, puisque le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les législateurs dérogent à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, mais à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Et puis, troisième étape, qui rejoint un peu la deuxième, c'est la proportionnalité à l'objectif poursuivi. Là, c'est la partie la plus complexe, parce qu'elle est éminemment subjective. Et c'est là où la différence entre l'intérêt général et l'objectif à valeur constitutionnelle prend tout son sens, puisque le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint en l'absence de disproportion manifeste, alors qu'il procède à un contrôle entier face à un motif d'intérêt général simple. Il est assez difficile pour la direction d'apprécier si l'atteinte portée à un principe constitutionnel est proportionnée à l'objectif poursuivi, en cas de liberté d'entreprendre, par exemple, ou droit de propriété, ou si l'intérêt général est suffisant en cas d'atteinte au contrat en cours. C'est donc une appréciation subjective et qui est vraiment difficile en l'absence de précédents topics, ce qui est malheureusement souvent le cas. Et donc, nous essayons de travailler autour, pour assurer cette proportionnalité, autour de garanties apportées qui permettraient de plaider la proportionnalité, ce qui nous amène souvent à proposer des garanties complémentaires. Par exemple, des limitations dans le temps ou même des mesures transitoires, même si le Conseil constitutionnel n'a pas jugé que ça constituait une garantie permettant d'assurer la proportionnalité. On la propose tout de même de temps en temps. La difficulté, c'est que ces garanties complémentaires ne sont pas toujours suivies parce qu'elles conduisent assez fréquemment à restreindre la portée du dispositif proposé. Et ça ne correspond pas toujours à l'objectif politique recherché. Donc, première étape, analyse au regard du droit interne. Deuxième étape, analyse à l'aune du droit européen. Alors, cette analyse est plus facile qu'en droit interne sur l'identification de la mesure d'intérêt général, parce que, au-delà des justifications restrictives prévues par le traité en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique, La Cour de justice de l'Union européenne a défini des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'on appelle les RIG, qui autorisent les États à restreindre les libertés d'établissement et de circulation consacrées par le droit primaire. Et donc, même si la Cour peut dégager à tout moment des RIG, la liste des RIG qu'elle a dégagées est limitée, beaucoup plus limitée que ne l'est l'intérêt général en droit interne. Donc, la Cour a exclu les justifications purement économiques. Donc, par exemple, la relance d'un secteur particulier ne peut justifier une limitation à la liberté de circulation des marchandises. Donc, ça a été jugé en 2022. Les règles les plus souvent retenues dans nos analyses sont celles qui concernent, sans surprise, la protection des consommateurs et la protection de l'environnement. Avec, sur la protection de l'environnement, des déclinaisons qui ont été retenues par la Cour, puisque l'objectif de maintien de l'activité commerciale en centre-ville constitue pour la Cour une RIG de nature à justifier une limite territoriale. Et c'est cette RIG que nous avons mobilisée pour analyser une mesure qui avait pour objectif de restreindre les horaires d'ouverture des commerces dans les zones périurbaines. Et donc finalement, ces RIG un peu spécialisées sont paradoxalement plus faciles à manier parce qu'elles encadrent assez précisément la marge de manœuvre laissée aux États membres. Et puis, dernière RIG que nous avons eu l'occasion d'utiliser, c'est le haut niveau de formation qui a également été reconnu comme une raison impérieuse d'intérêt général. La deuxième étape, comme en droit interne, c'est le contrôle de proportionnalité, qui inclut d'ailleurs le lien entre la RIG et la mesure proposée. Et là, c'est vraiment une phase encore plus complexe qu'en droit interne pour la direction des affaires juridiques, parce que ce test de proportionnalité est très exigeant. Il doit conduire à démontrer que la mesure est nécessaire, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif visé, donc là on reste dans le classique, mais surtout qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Et donc, ça nous conduit à devoir démontrer que l'objectif poursuivi ne peut être atteint par une autre mesure moins attentatoire aux libertés de circulation ou d'établissement. Et donc ça, c'est une différence importante avec le contrôle général en droit interne, puisque il faut pouvoir prouver qu'il n'y a pas d'autre solution moins attentatoire. Par ailleurs, cette démonstration de proportionnalité doit être fondée sur des éléments factuels précis. Or, la jurisprudence de la Cour est rare et elle examine très rarement des cas analogues aux mesures envisagées. Et donc, on doit raisonner par analogie, ce qui comporte bien entendu des limites qu'on s'efforce de surmonter de deux manières. D'abord, en demandant aux directions métiers de nous soumettre des scénarios alternatifs. Et donc, ça permet de hiérarchiser les mesures proposées en fonction de l'atteinte qu'elles peuvent porter aux libertés. Par exemple, en matière de liberté de prestation de services, en mesure alternative à l'interdiction de la publicité pour des motifs de protection des consommateurs, on examine également une limitation de la publicité ou encore l'affichage de bandeaux informatifs qui sont donc moins attentatoires. Ça, c'est le scénario idéal quand on a des scénarios alternatifs. Malgré tout, dans des cas assez fréquents, c'est à la direction des affaires juridiques d'examiner et de proposer des mesures moins attentatoires lorsqu'elles existent pour assurer donc cette conformité au droit européen. Alors, en conclusion, comme vous le voyez, la notion d'intérêt général est très utilisée par la direction des affaires juridiques dans sa fonction de conseil, mais elle est difficile à manier. Elle est mal définie en droit interne, ça je crois qu'on l'a bien vu ce matin. Le contrôle de proportionnalité est complexe, et peut-être là où on a la difficulté la plus importante, notamment en droit européen, puisque donc il est nécessaire, comme je l'ai dit, de vérifier que la mesure, qu'il n'existe pas de mesure moins attentatoire. Et ce contrôle est encore plus casuistique qu'en droit interne. Et surtout, il arrive que l'intérêt général qui est avancé soit proportionné en droit interne, mais ne le soit pas, de notre point de vue, en droit européen, ce qui n'est pas facile à faire comprendre à nos interlocuteurs. Par ailleurs, les délais impartis pour ce rôle de conseil, donc de prévention du contentieux, sont de plus en plus courts, ce qui fragilise l'exhaustivité de l'analyse qu'on peut fournir. Donc, ce qui me conduit à conclure que les juridictions administratives ou encore de très beaux dossiers économiques et financiers à juger.
M. merci beaucoup. Donc, ça est de beaux dossiers à venir, donc, bah, toujours. Personne n'avait vraiment d'inquiétude sur ce point dans la salle, je crois. Notion difficile à manier, mais nous sommes mieux armés désormais pour les aborder, puisque nous avons bénéficié de la richesse de ces illustrations qui montrent bien la difficulté de l'identification et de la pédagogie dans chaque cas. Alors, ici, avant la saisine du juge, de telle sorte que le juge peut-être ne soit pas saisi parce que la décision administrative aura parfaitement adapté son calibrage aux exigences de l'intérêt général. Mais ce rôle d'intercesseur, de pédagogue, de médiateur, de traducteur, un petit peu de la notion d'intérêt général à destination de l'administration qui administre, est tout à fait central dans l'action de cette direction. Et je trouve très intéressant d'avoir cette approche et ce point de vue. Des beaux dossiers qui restent, donc la juridiction va continuer de se prononcer et d'être appelée à manier, à intégrer, elle aussi, dans le cadre de sa propre activité, la notion d'intérêt général. Et nous allons maintenant entrer dans le prétoire. On nous tourne vers Cyrine Cascara pour lui lancer la balle sur l'intérêt général et les parties au procès. L'intérêt général et l'instruction des affaires devant le juge administratif.
Merci, Monsieur le Président. Alors, comme on le sait, ça a été rappelé amplement ce matin, l'intérêt général remplit deux fonctions dans le contrôle de la légalité de l'action publique. Une cause d'illégalité de cette action lorsque l'administration poursuit un but ou un objectif étranger à l'intérêt général ou un but d'intérêt général autre que celui à raison duquel le pouvoir qu'elle détient lui a été conféré. Mes confrères publicistes agissant contre l'administration s'attache régulièrement à tenter de démontrer qu'en prenant telle ou telle décision qu'ils attaquent, l'administration n'aurait pas agi dans l'intérêt public ou aurait agi dans un intérêt public étranger au pouvoir dont elle dispose. Et la seconde fonction de l'intérêt général dans le cadre de ce contrôle est au contraire une cause de légitimité de l'action administrative. L'acte administratif qui a, sinon pour objet, du moins pour effet, de restreindre les conditions d'exercice d'une activité ou d'un droit protégé, peut néanmoins être regardé comme légal par le juge administratif si l'intérêt général le justifie. Consacrant mon activité professionnelle à la défense des collectivités et des établissements publics, c'est sur cette seconde fonction, avec votre accord, que je voudrais m'arrêter pour traiter du thème qui m'a été confié. La prise en compte des droits et libertés individuelles n'a jamais abouti à leur protection absolue. Dans son contrôle du pouvoir administratif, le juge administratif se réserve, grâce à la méthode de la mise en balance, la faculté de faire primer l'intérêt collectif sur les intérêts privés lorsque les circonstances lui paraissent le justifier. Certes, dans la plupart des cas, l'intérêt général résulte d'un texte législatif ou réglementaire que le juge administratif ne peut que se borner à appliquer. Que l'on songe à la célèbre loi littorale, les collectivités littorales qui se sont battues bec et ongles dans les prétoires pour éviter des annulations d'autorisation ou de plans d'urbanisme afin notamment de préserver leur activité et leur attractivité économique et touristique, finissent aujourd'hui, après des années d'échecs constants, par capituler le juge administratif, leur rappelant invariablement la volonté du législateur, à laquelle le juge ne peut que se soumettre, de placer la préservation du littoral français au-dessus de toute autre préoccupation locale, aussi louable soit-elle. Mais dans d'autres cas, et ils sont en définitive nombreux, ce sera au juge lui-même de fixer le sens et la portée, forcément contingent, de l'intérêt général qui lui est demandé de faire prévaloir. Et c'est là, dans cette tâche, par définition jamais dénuée de subjectivité, que les tensions entre l'intérêt commun et les droits et intérêts individuels se cristallisent. Et il me semble, à cet égard, que compte tenu de l'éclosion, du développement et de la place toujours plus grande accordée aux droits individuels, il devient de plus en plus difficile de faire triompher devant le juge administratif l'intérêt général prééminent, autrement dit, de lui faire admettre que le droit d'exercer une liberté ou de faire valoir une garantie individuelle puisse être limité, voire écarté, au nom d'un intérêt général supérieur. Et ceux qui, comme moi, donc, sont des avocats publicistes intervenant pour le compte de l'administration, le vivent au quotidien dans l'instruction des affaires portées devant les juridictions administratives de première instance comme d'appel. Car notre travail de rédaction d'une argumentation en défense ne peut pas ne pas être tributaire de l'approche qu'adoptera le juge administratif, qu'il nous faut pronostiquer, autant que faire se peut, sur l'intérêt public en cause dans l'affaire qu'on traite. Nous sommes en effet obligés, pour essayer d'accompagner au mieux les administrations qui nous confient la défense de leurs intérêts, de se demander dans chaque dossier, aussi en amont que possible, si et dans quelle mesure le juge administratif pourrait accepter de donner la priorité à une raison d'utilité publique prédominante. Jadis, même s'il garantissait déjà les situations des administrés, le juge administratif acceptait assez aisément d'en relativiser la protection lorsque les impératifs propres au bien commun lui paraissaient l'exiger. C'est moins le cas aujourd'hui, me semble-t-il. Pourquoi ? La plasticité du concept n'a rien de nouveau. Alors pourquoi ce reflux de la primauté d'un intérêt général dominant permettant de valider, le cas échéant, un acte administratif potentiellement attentatoire à un intérêt individuel ? J'ai le sentiment, sans doute est-ce très subjectif, que cela est essentiellement lié à la volonté du juge administratif de ne plus être soupçonné de favoriser en quoi que ce soit l'administration en laissant l'emporter, au bout du compte, un intérêt général indétrônable. Comme s'il voulait se débarrasser une fois pour toutes de cette étiquette qu'il continue de lui coller à la peau, même auprès de praticiens expérimentés, en tout cas dans les barreaux ordinaires, de juges imparfaits des droits et libertés individuelles. Combien de fois, à la barre, m'est-il arrivé, lorsque je brandis comme arme ultime l'intérêt public prééminent, de remarquer des regards de juges me signifiant manifestement qu'il serait plus sage que je ne place pas trop d'espoir dans le succès de cette objection. Prenons le cas du juge administratif des référés, lorsqu'il doit apprécier l'urgence à suspendre ou non l'exécution d'un acte administratif. Dans son appréciation concrète et globale de l'urgence qui lui est imposée depuis l'arrêt de section préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2001, le juge des référés est conduit, vous le savez, à mettre en balance l'intérêt à suspendre ou à prononcer une injonction et l'intérêt public à ne pas suspendre et donc à poursuivre immédiatement l'exécution de l'acte, ce qui l'amène, dans ce que certains appellent un bilan des urgences, à prendre en considération les effets de la mesure qui lui est demandé de prendre, puis à les mettre en balance avec l'intérêt général qu'il y aurait à ne pas prononcer cette mesure. Or, j'ai de plus en plus l'impression que, même lorsque l'administration invoque des éléments circonstanciés d'intérêt général propres à contrer l'intérêt individuel mis en avant par le demandeur, le juge a davantage de réticence qu'auparavant à se laisser convaincre, comme si son objectif suprême était non plus, comme naguère, de donner la priorité à un intérêt général indépassable, mais d'offrir des garanties accrues aux administrés, comme si leurs intérêts pesaient maintenant plus lourd que l'intérêt public. Un exemple. Et un seul, pour respecter ou tenter de respecter le temps, Monsieur le Président, que vous m'avez imparti, un exemple dont j'ai eu directement à connaître à propos d'un projet de construction d'un stade nautique sur le territoire d'une grande commune de la métropole bordelaise. Je passe sur les particularités procédurales de cette affaire, d'ailleurs censurée par un arrêt du Conseil du 17 avril dernier, qui avait permis à des requérants ayant échoué par la voie du référé suspension à obtenir la suspension des permis de construire cet équipement, de former un référé environnemental en cours d'exécution des travaux, après l'intervention d'un jugement avant dire droit, rendu dans le cadre de l'instance principale en annulation, décidant d'accueillir leurs moyens tirés de l'absence d'insertion d'une étude d'impact dans le dossier joint à la demande de permis de construire. La commune, comme d'ailleurs Bordeaux Métropole et la société concessionnaire du futur bâtiment, ont fait valoir qu'un intérêt local supérieur commandait le rejet de la demande de suspension de l'exécution des permis de construire du complexe nautique. Intérêt local lié à la fois au coût très significatif des investissements publics déjà consentis pour sa construction, aux conséquences financières d'un arrêt du chantier qui serait à ce point désastreuse qu'elle pourrait aboutir à l'abandon du projet, et à la circonstance qu'en cas d'ouverture différée de cet équipement, ses principaux usagers, à savoir des centaines d'élèves des établissements scolaires communaux, ne pourraient plus apprendre à nager pendant leur temps scolaire. Or, le juge administratif des référés a balayé d'un revers de main ces motifs impérieux d'intérêt général, alors même au demeurant qu'il était également démontré que l'ouverture reportée de l'équipement aurait des effets écologiques négatifs, en retenant en priorité, et même exclusivement, les potentielles nuisances sonores que pourraient subir quelques riverains à cause de l'un des éléments du complexe, en l'occurrence un water jump. Je ne suis pas persuadé qu'il y a encore quelques années, le juge administratif des référés aurait, dans un cas de figure similaire, refusé de faire prévaloir l'intérêt public dans ses différents volets. Et je dois dire que quand le professeur Delvolvé, ce matin, a rappelé le sens des mots en évoquant ce qui est important pour l'ensemble, je ne veux pas paraître mauvais joueur et refaire devant vous un procès en référé que j'ai perdu, avec d'autres, mais que j'ai perdu, mais l'intérêt de quelques riverains contre des intérêts de plusieurs milliers d'administrés. À moins, au fond, que cette tendance que je crois pouvoir déceler ne soit finalement que la manifestation d'un contrôle juridictionnel plus poussé, plus exigeant sur la pertinence de la qualification d'intérêt général proposée par l'administration. Le fait que l'intérêt général, pour reprendre les termes du professeur Clamour, je cite, ne puisse plus être parole autoritaire drapée ex ante des habits de la vérité, fin de citation, ayant sans doute progressivement convaincu le juge administratif d'examiner plus minutieusement la consistance concrète dans chaque dossier d'un intérêt général qu'il n'accepte plus de faire prévaloir presque automatiquement. Un juge administratif qui consent moins à ériger comme sauveur de la légalité administrative un intérêt public un peu évanescent qui ne serait pas caractérisé dans toutes ses dimensions. Madame la présidente Dumortier a employé, je crois, la formule de sacrifice des droits individuels ce matin. Ça a fait écho à ce que je crois pouvoir peut-être constater en tant que modeste praticien devant les juridictions ordinaires. Mais peut-être est-ce à nous aussi, et les administrations dites actives ont parfois, me semble-t-il, quelques progrès à faire aussi pour avoir cette volonté de, devant vous, le juge administratif, concrétiser avec des éléments très concrets l'intérêt général qu'on évoque. Et encore une fois, c'est peut-être sur ce plan que les plus grands progrès sont à faire pour qu'à nouveau l'intérêt public prévale. En tout cas, ça a, du point de vue des parties au procès administratif, une incidence réelle dans leur travail d'instruction, avec, selon les domaines en cause, des demandeurs qui, en principe, s'en réjouissent et des défendeurs qui le déplorent, ou l'inverse. Et avec votre accord, je voudrais enfin évoquer, en guise de brève conclusion, la prise en compte de l'intérêt général également dans l'instruction de celle des affaires portées devant la juridiction administrative qui, en tout début ou en cours de procédure, font l'objet d'une proposition de médiation par la juridiction administrative elle-même. On le sait, cet outil alternatif de règlement des litiges, qui ne s'est imposé que récemment en matière administrative, se développe actuellement beaucoup. En tout cas, un certain nombre de tribunaux administratifs suggèrent désormais aux parties, donc à leur conseil, aux parties au procès, d'y recourir en mettant en avant ces avantages connus, coût réduit, célérité, confidentialité, issue amiable, et j'en passe probablement. Je ne suis pas du tout opposé par principe à ce dispositif. Et j'ai d'ailleurs accepté avec beaucoup d'intérêt de faire partie de la liste des médiateurs au tribunal administratif de Bordeaux. Il n'empêche que l'on doit, me semble-t-il, quand on est une personne publique, se demander, quand on reçoit une proposition de médiation, si l'intérêt général que l'on est censé poursuivre commande bien d'y recourir. Serait-ce bien d'intérêt général que le litige ne soit finalement pas tranché en droit par le juge administratif? La réponse à cette question peut tout à fait être positive. Mais encore faut-il se la poser. Car même si les règles d'ordre public constituent de salutaires garde-fous à des accords transactionnels qui bafoueraient frontalement la légalité administrative, certains accommodements avec le respect de la norme pour parvenir à tout prix à un accord entre les parties, même si un accord a en lui-même, évidemment, un caractère a priori vertueux, eh bien, accommodement qui pourrait aboutir, si l'on y prend garde, à un affaiblissement de la norme, de la force de la norme, et donc à terme de sa valeur. Autrement dit, il ne faudrait pas, pour éviter autant que faire se peut d'aller au bout du procès, qui a, il est vrai, cet inconvénient que, sauf cas rarissime, une partie au moins en sort déçue, il ne faudrait peut-être pas privilégier des issues amiables qui finirait par déboucher sur une sorte d'effet relatif du règlement. Il n'est pas absolument certain que l'intérêt général y gagnerait. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour ces réflexions tout à fait stimulantes. Gaëlle Dumortier vous a répondu un peu par avance ce matin en parlant du juge en moins et du juge en plus. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure réponse que celle qu'elle faisait ce matin à cette préoccupation que vous avez exprimée. L'équilibre, la conciliation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, je le disais d'emblée, c'est l'exercice le plus difficile auquel est confronté le juge administratif. C'est sa raison d'être, c'est le cœur de son métier. Alors, je ne sais pas s'il faut trouver une bascule avant 1970 et après 1970, mais il est certain que les appréciations qui sont portées à cet égard, les conciliations qui sont faites, sont évidemment tributaires du moment dans lequel les appréciations sont portées. Parce que, mais là aussi, ça a été, je crois, déjà abondamment expliqué ce matin, les notions que l'on manie ici, les intérêts qui sont en cause, ne sont pas des intérêts ou des notions immanentes, ce sont des notions incarnées, qui sont des notions incarnées dans le fonctionnement d'une société à un moment donné. Et le juge, lui aussi, est un acteur de ce moment-là. Il perçoit, il interagit avec les préoccupations de ceux qui viennent le voir de part et d'autre. Et donc, oui, cette conciliation-là, c'est une conciliation difficile, mais c'est celle à laquelle il essaie, je crois sans mauvaise conscience, de se livrer. Vous avez aussi abordé d'emblée une question qui est très difficile, qui est la question de savoir s'il y a entre les intérêts généraux une forme de hiérarchie. Ce point aussi a été évoqué ce matin. L'exemple de la loi Littoral est un bon exemple. Il y a d'autres intérêts généraux qui peuvent interférer. Mais là, il y a une disposition législative particulière, avec sa force particulière et son objet spécial particulier, qui conduisent à l'emporter dans le champ qui est traité par cette loi sur d'autres intérêts généraux. Cette question de la conciliation des intérêts généraux entre eux, de leur articulation, de leur hiérarchie, eh bien, c'est là aussi au cœur du travail qui est le nôtre. Vous avez rappelé aussi que le travail du juge est préparé par le travail des parties, par le travail de leurs conseils qui viennent présenter les cas, qui viennent argumenter, qui viennent exposer, qui viennent... Et donc ce travail préparatoire-là, qui est essentiel dans la préparation du procès, c'est un travail de préparation qui est tout à fait capital pour le juge ensuite, qui me permet de me tourner vers le président du Chondoris pour voir ce qu'il en est maintenant lorsque le juge est sur le point de juger.
Oui, merci, Monsieur le Président. J'avoue que quand vous m'avez demandé de traiter de la prise en compte de l'intérêt général dans l'acte de juger, j'ai eu le sentiment que mon sujet était un peu vain. D'abord parce qu'on n'imagine pas l'acte de juger sans prise en compte de l'intérêt général, ne serait-ce que parce que alors, Madame le Président du Mortier a rappelé le caractère consubstantiel de l'intérêt général vis-à-vis du juge administratif, et puis le juge administratif est le juge de l'administration, et l'intérêt général est la principale, sinon l'unique justification de l'action publique. Je me suis demandé aussi si ce n'était pas un peu vain, parce que depuis le début de la matinée, tous les intervenants traitent de la prise en compte de l'intérêt général dans la jurisprudence. Mais grâce à Maître Carrasca, je me demande si effectivement mon intervention n'est pas utile pour le rassurer ou pour l'effrayer, en privilégiant peut-être une approche pratique, comment le juge, dans l'acte de juger, prend en compte l'intérêt général. Alors si on retient cette approche pratique, en pratique, le rôle précis du juge... correspond à certaines hypothèses. La première situation est celle donc d'une contestation de la finalité même de l'action de l'administration. La tâche première du juge est alors de vérifier, comme vous l'avez dit, l'existence de l'intérêt général invoqué à l'appui de la décision contrôlée, la légalité, par exemple, d'une mesure de police, est subordonnée à l'existence d'un motif d'ordre général qui est seul de nature à la justifier en droit. Précisons que cela passe aussi par un contrôle des modalités par lesquelles a été défini cet intérêt général. Il peut y avoir, bien sûr, des procédures précises, des consultations, des avis, et ça fait bien sûr partie du travail du juge. Et ça passe aussi par un contrôle de la manière dont l'action de l'administration, justifiée par l'intérêt général, a été effectivement mise en œuvre. La deuxième situation, c'est celle où le juge peut être saisi de la légalité de l'abstention de l'autorité publique à appliquer ses missions d'intérêt général, inaction des pouvoirs publics, absence de contrôle, refus de concours de la force publique, etc., avec le cas échéant, engagement de sa responsabilité. Il peut aussi être demandé au juge, on l'a évoqué très largement ce matin aussi, d'arbitrer entre des politiques ou des compétences publiques qui sont entrées en concurrence. Et à cet égard, la notion d'intérêt général est d'une grande utilité en ce qu'elle donne au juge la possibilité de juger l'action de l'administration selon un principe général et transversal et d'arbitrer ainsi entre les intérêts publics. Et enfin, et principalement peut-être, le juge va être sollicité pour déterminer le bon équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, entre l'intérêt général évoqué, avancé, et l'exercice des droits et libertés individuelles ou des principes généraux protégeant les administrés, tels le principe d'égalité ou le principe de sécurité juridique. Il faut donc, dans la majorité des cas, dans l'acte de juger, procéder en deux étapes, qui sont bien sûr parfois pas aussi explicites que ça. La première étape est l'identification d'un intérêt général. Et de ce point de vue, il me paraît essentiel que la notion garde une certaine plasticité et ne soit pas enfermée dans une définition figée. Je voudrais juste en prendre un exemple, une décision du 24 février 2023 du Conseil d'État, syndicat national de la publicité extérieure, que vous connaissez bien, Monsieur le Président. Le syndicat requérant donc soutenait que les nouvelles dispositions du Code de l'environnement qui rendent obligatoire la règle d'extinction nocturne des publicités lumineuses dans les grandes communes, ont méconnu le principe de sécurité juridique en ce qu'elles sont immédiatement applicables et ne ménagent pas un régime transitoire pour permettre aux professionnels de s'y adapter. Le juge va passer d'abord par plusieurs étapes pour identifier l'intérêt général. Il va d'abord rattacher la généralisation de l'obligation d'extinction nocturne à la protection de l'environnement et du cadre de vie. Puis il va rattacher cette protection à l'intérêt général, mais cela n'est pas suffisant pour justifier l'intervention du décret. Et ce que va faire le juge, c'est qu'il va relever qu'à la date du décret attaqué, les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l'hiver 2022 et 2023 impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. Donc l'intérêt général est défini ainsi de manière très concrète, en tenant compte parfois de considérations à court terme qui permettent de l'identifier à un instant T, ici le risque énergétique temporaire dû à la crise ukrainienne. On voit l'intérêt, si je puis dire, à ce que l'intérêt général ne fasse pas l'objet d'une définition gravée dans le marbre. Une fois l'intérêt général identifié, la seconde étape dans le raisonnement du juge est de rechercher l'équilibre raisonnable entre la défense de cet intérêt général et le respect des intérêts privés. Ainsi, dans cette décision au Syndicat national de la publicité extérieure, le Conseil d'État va annuler le décret en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne pour permettre aux entreprises concernées de s'adapter. Alors oui, ce contrôle est de plus en plus exigeant. Oui, il est de plus en plus affiné. Mais je voudrais insister sur le fait, ce qui a déjà été fait un petit peu, que l'appréciation du juge se fait de manière très concrète, dossier par dossier, en fonction des éléments et des pièces produites par les parties. Alors on peut prendre pour l'illustrer un contentieux pourtant sensible, le contentieux des autorisations ou des interdictions de manifester. Entre les manifestations contre les réformes des retraites, les manifestations d'extrême droite ou les manifestations liées aux événements récents en Israël, le tribunal administratif de Paris a été saisi ces derniers mois de près d'une quarantaine de requêtes contestant des arrêtés du préfet de police interdisant ou restreignant les manifestations. L'arbitrage est délicat puisque l'on a d'un côté la défense de l'ordre public, composante essentielle de l'intérêt général, et de l'autre, la défense de la liberté fondamentale qu'est la liberté de manifester. Ce qui frappe, c'est la variété des solutions retenues par le juge. S'agissant par exemple des seules manifestations que je vais qualifier de pro-palestiniennes, le tribunal a parfois confirmé les arrêtés, les a parfois suspendus, les a parfois maintenus avec des modifications. Ce n'est pas la conséquence d'une lubie du juge ou d'une versatilité du juge. Les principes à appliquer sont clairs. La liberté de manifester est la règle et l'interdiction l'exception. L'autorité investie du pouvoir de police doit apprécier le risque de trouble à l'ordre public et ne prendre que des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances. Et comme l'a clairement rappelé le Conseil d'État dans son ordonnance du 18 octobre 2023 à Comité Action Palestine, l'examen doit se faire au cas par cas. Alors concrètement, pour exercer son contrôle, le juge va tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui sont dans le dossier. Les éléments qui ne sont pas dans le dossier, il ne peut pas les prendre en compte. Il va prendre en compte le risque particulier de débordement que peut représenter la manifestation au regard des personnes qui l'organisent, des thèmes qu'elle entend aborder, du nombre de participants, du moment et du parcours choisi, des antécédents aussi des organisateurs et des manifestations comparables, ont-elles ou n'ont-elles pas dégénéré dans le passé ? Il va prendre également en compte la capacité des organisateurs à assurer un minimum de services d'ordre, à contrôler leurs troupes pour éviter les débordements, les intrusions extérieures, les dérapages verbaux. Et puis, bien sûr, il va prendre en considération la capacité des forces de l'ordre à maintenir la sécurité publique, ce qui va dépendre, par exemple, de manière donc très concrète, des troupes disponibles, mais aussi de l'existence d'autres manifestations au même moment ou du contexte général dans lequel s'inscrit l'événement. Ce qui me paraît aussi intéressant de relever, c'est que la saisine du juge est une modalité pratique, simple et plutôt démocratique, par laquelle chaque citoyen va pouvoir participer à la définition de l'intérêt général et contribuer à trouver le bon équilibre entre les droits et les libertés. Alors c'est vrai, bien sûr, pour tout dossier examiné par le juge, mais c'est encore plus vrai pour certaines procédures, en particulier le référé liberté que vous évoquiez. Au tribunal administratif de Paris, nous traitons en ce moment entre une vingtaine et une soixantaine de référés liberté par semaine. Dans chaque dossier sont discutés à la fois le motif d'intérêt général et ce qui l'autorise en termes d'atteinte aux libertés et aux intérêts des particuliers. Alors, j'avais promis à certains de ne pas parler de la crise sanitaire, mais je voudrais y revenir un instant. Durant la crise sanitaire, donc par exemple, les requêtes ont émané de particuliers, d'entreprises, d'associations, de syndicats, de partis politiques. Et face à cette composante essentielle de l'intérêt général qu'est la préservation de la santé publique, la plupart des grandes libertés fondamentales ont été invoquées, du droit à la vie, à la liberté d'aller et venir, en passant par la liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté d'entreprendre ou encore la liberté d'expression. C'est par la saisine du juge administratif qu'un débat a pu avoir lieu sur ces grandes questions en une période où les autres lieux d'expression étaient largement empêchés. Autant de petits coups de scalpel ou de burin, comme vous voulez, qui ont sculpté, requête par requête, ce qui était au final acceptable au titre de l'état d'urgence sanitaire. Il me paraît aussi utile de préciser, et là c'est peut-être le regard émerveillé du juge de première instance sur la jurisprudence du Conseil d'État, il me paraît utile de préciser qu'en procédant à la confrontation des droits et libertés individuelles ou des principes généraux avec la notion d'intérêt général, le juge ne se contente pas d'opposer de manière stérile et statique les notions, ni même d'arbitrer simplement entre elles. La plasticité de la notion d'intérêt général lui permet de faire émerger des constructions juridiques nouvelles et fécondes. Hier, les différents cas de responsabilité sans faute, ou, comme on l'a évoqué ce matin, la théorie du bilan dans la Réville Nouvelle-Est, plus récemment, la jurisprudence Association AC, dont va nous parler Madame le professeur, mais également, bien sûr, ça a été aussi évoqué ce matin, les jurisprudences Bézier 1 et Bézier 2, où le pouvoir du juge, à la fois de résilier la convention ou, au contraire, de la rétablir malgré sa résiliation, trouve comme limite, bien sûr, les atteintes portées à l'intérêt général. Dans ce processus, le juge de première instance que je représente a plus de responsabilités que de pouvoir. Il n'apporte sa pierre que modestement, d'abord parce qu'il ne se prononce, comme on l'a déjà dit, que dans la limite de sa saisine, et je peux vous dire qu'au stade de la première instance, les arguments ne sont pas toujours aussi affinés, justifiés ou développés qu'ils le seront en appel ou en cassation. Ensuite, parce qu'il s'appuie bien sûr sur la loi qui définit le plus souvent l'intérêt général et fixe les termes du débat, mais aussi parce qu'au final, quand il lui reste une petite marge de manœuvre, son devoir, j'allais dire sa grandeur, est de s'appuyer sur un socle jurisprudentiel garantissant que sa solution s'inscrit dans une évolution historique, solide, patiemment construite et qui évolue d'une manière raisonnable et réfléchie. Enfin, pour terminer, je voudrais ajouter que si l'acte de juger prend en compte l'intérêt général, il le fait d'une manière englobante. Je veux dire par là que l'intérêt général n'est pas simplement un élément de l'acte de juger, puisque l'acte de juger lui-même s'inscrit dans une logique d'intérêt général. Il l'est tout d'abord parce que la justice est un service public administratif qui, comme tous ses homologues, est tourné vers la satisfaction de l'intérêt général, si bien qu'il m'appartient en tant que chef de juridiction, comme n'importe quel administrateur, de maintenir en état de marche mon tribunal afin qu'il satisfasse le mieux possible cet intérêt général, c'est-à-dire faciliter l'accès au juge, bien faire fonctionner la juridiction dans le respect, par exemple, des droits de la défense ou du principe du contradictoire, rendre des décisions intelligibles, lisibles, et bien sûr, veiller à ce que cette décision puisse être exécutée. Il l'est surtout parce que l'acte de juger n'est lui-même légitime que s'il s'insère dans une volonté de faire triompher l'intérêt général, que s'il participe à sa défense. Il est, pour conclure, de l'intérêt général qu'un contrôle juridictionnel raisonnable soit exercé sur l'administration. Il est de l'intérêt général que la loi soit respectée. Et il est d'intérêt général, Maître Kazaska, que sous le contrôle du juge, les intérêts publics prennent le mieux possible en compte les intérêts particuliers. Merci.
Merci beaucoup d'avoir ainsi parfaitement décortiqué le processus, l'action du juge administratif, la façon qu'il a de traiter de façon concrète, raisonnée, cas après cas, les questions qui lui sont posées par les justiciables. Et j'ai trouvé que la force évocatrice des exemples que vous avez su choisir permet à chacun d'entre nous de bien toucher du doigt à la fois la difficulté de l'exercice, mais aussi sa grande noblesse, pour le coup. Et ce que vous avez décrit avec des exemples qui sont très contemporains, en se fondant donc sur les particularités, le type de questions qui sont aujourd'hui soumises ou posées au juge administratif, c'est la façon d'aujourd'hui de continuer de mettre en œuvre une démarche très classique dans l'action du juge administratif qui, certes, sur des sujets qui se renouvellent, avec des préoccupations ou des intérêts qui se renouvellent, est toujours conduit à pratiquer de la façon la plus concrète possible cette balance des intérêts, cette identification d'abord des raisons et cette balance entre les différents intérêts en, en présence. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans le rôle, l'intervention du juge administratif qui a émergé depuis une vingtaine d'années, c'est la prise en compte par le juge lui-même des conséquences de ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est un nouveau terrain d'illustration et de pratique de l'intérêt général, le juge qui utilise, manie la notion de l'intérêt général par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et ce champ nouveau, je laisse à Mme Mahmoudi le soin de nous en parler.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler de l'office du juge administratif, là où, finalement, il se construit, puisque je passe mon temps, non pas mes nuits, mais une partie en tout cas de mes journées, à étudier des décisions du Conseil d'État et à les analyser. Je suis donc très heureuse de siéger ici, bien que n'étant, comme beaucoup l'ont souligné ce matin, pas du tout à ma place, pour vous dire brièvement ce que m'a inspiré le sujet qu'il m'a été donné de traiter. Soit un sujet relativement vaste et intraitable dans sa grande totalité, si je peux dire, puisqu'il portait sur la prise en compte de l'intérêt général dans la détermination des conséquences des décisions du juge administratif, modulation des effets dans le temps des décisions, régularisation en cours d'instance et exécution des décisions. Donc je ne traiterai pas tout et je serai, vous m'en excuserez, relativement général dans mon propos pour ne pas vous noyer sous l'intérêt général dans ses particularités chaque fois définies par le juge administratif lui-même. Quand on s'intéresse aux évolutions récentes de l'office du juge administratif, je pense qu'on peut partir globalement des années 2000. On peut peut-être remonter aussi jusqu'au pouvoir d'injonction, mais globalement la bascule se situe à ce moment-là. On se rend compte que la prise en compte de l'intérêt général est un élément déterminant dans l'évolution de son office. Et toute la question, c'est de savoir quelle est l'articulation, la balance qui peut s'opérer entre la prise en compte de l'intérêt général et, d'une part, et d'autre part, les exigences tenant au respect de la légalité et au droit au recours effectif. Se pose aussi, lorsqu'on étudie les moyens que le juge administratif peut déployer pour s'assurer que les conséquences de sa décision ne sont pas trop graves pour l'intérêt général. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les contours de l'intérêt général qui est ainsi protégé, parce que ici, c'est bien le juge lui-même qui définit ces contours et qui fixe la notion d'intérêt général. Pour des raisons pratiques, je vais traiter donc d'abord la modulation, ensuite l'exécution, et puis, en dernier lieu et de manière très brève, la régularisation. Chaque fois, dans ces trois cas, donc modulation dans le temps des effets de la décision, limitation des mesures d'exécution liées à la décision et puis régularisation en cours d'instance, l'intérêt général vient jouer comme une soupape de sûreté qui permet au juge administratif d'échapper à ce qu'on pourrait considérer comme étant un effet un peu mécanique de ces décisions. Dans le cadre de la jurisprudence AC de 2004, quand on étudie cette jurisprudence, il faut bien dire que le maître mot qui vient à l'esprit n'est pas l'intérêt général, mais la sécurité juridique. Il en a été assez peu question, on l'a évoqué quand même, le terme est revenu dans un certain nombre de propos. Donc on a cette intuition première quand même que le pouvoir de modulation dans le temps est fondé sur une exigence de sécurité juridique sous l'angle de la stabilité des situations juridiques. Mais le lien entre modulation et intérêt général est assez aisé à faire puisque le considérant de principe de la décision AC ne contient pas le terme sécurité juridique, mais contient le terme intérêt général. Donc, dans le cadre de la modulation, les conséquences manifestement excessives d'une annulation pour excès de pouvoir, qui est le critère qui permet de déclencher la mise en œuvre du pouvoir de modulation, ces conséquences, elles s'apprécient notamment à l'aune de l'intérêt général pouvant s'attacher au maintien temporaire des effets de l'acte annulé, donc de l'acte illégal. Ce que cela veut dire, c'est que la modulation permet de protéger la sécurité juridique dans ce qu'on peut considérer comme étant sa dimension collective, et la protection de la sécurité juridique dans sa dimension collective passe nécessairement par la préservation de l'intérêt général. Autrement dit, par la préservation d'un certain nombre d'exigences liées aux nécessités de l'action publique. Donc cette modulation, elle peut être prononcée, décidée par le juge administratif sur le fondement exclusif de l'intérêt général ou sur le fondement donc, soit de l'intérêt général cumulé avec d'autres éléments, sachant que, et ça on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, dans l'intérêt général peuvent être inclus des intérêts particuliers. Trois remarques sur la protection de l'intérêt général par le pouvoir de modulation dans le temps des effets de l'annulation pour excès de pouvoir. Première remarque, le caractère protéiforme et malléable de l'intérêt général permet au juge administratif de protéger de très nombreuses facettes de l'intérêt général. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous les objectifs, de tous les intérêts généraux au pluriel qui ont été protégés par le pouvoir de modulation. Mais ça peut aller donc, du développement de la télévision numérique à l'existence de dispositions de nature à assurer l'accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite, à la protection de l'environnement, au fonctionnement du service public de la justice, et j'avais trouvé un exemple dans ma thèse, donc au maintien des championnats du monde, je crois, de cerf-volant à Berck-sur-Mer. Voilà. Donc tout y passe, si vous voulez, c'est assez difficile à systématiser, et c'est pour vous dire que cet intérêt général défini par le juge et protégé au moyen de la modulation est extrêmement vaste et malléable. Deuxième remarque, cette imprécision consubstantielle à la notion d'intérêt général est un des facteurs qui a contribué à l'élargissement de la mise en œuvre du pouvoir de modulation temporelle et qui, à mon avis, a contribué aussi à lui faire perdre son statut de dérogation initialement exceptionnel au caractère rétroactif de l'annulation. Donc ce fondement, qui est l'intérêt général, a contribué à ce qu'on peut considérer comme étant une banalisation du pouvoir de modulation temporelle. Les termes d'exception n'apparaissent plus dans le considérant de principe de la jurisprudence AC. Et puis, dernière remarque, l'intérêt général recouvre parfois, même si c'est relativement rare, le respect de la légalité. C'est-à-dire que le pouvoir de modulation va être mis en œuvre pour arbitrer entre exigences de légalité entre elles. Donc, c'est notamment le cas lorsque le juge annule un acte qui a été pris pour la transposition, un acte réglementaire pour la transposition d'une directive de l'Union européenne. Et ici, eh bien, il va moduler dans le temps pour assurer le maintien de cet acte, donc conforme au droit de l'Union européenne et contraire pour d'autres raisons au droit interne. Donc on voit bien ici que sous couvert d'intérêt général, on va retrouver le respect du principe de l'égalité qui va s'opposer à la stricte mise en œuvre par ailleurs de ce même principe de l'égalité. Le raisonnement est un petit peu circulaire. Donc voilà pour ce qui est de la modulation dans le temps des effets des décisions de justice. Concernant l'exécution des décisions et l'intérêt général. Lorsque on parle d'exécution et de prise en compte de l'intérêt général, il me semble que on fait référence à ce qu'il est convenu d'appeler les réserves d'intérêt général. Les réserves d'intérêt général, donc, ce sont des mécanismes élaborés par le juge administratif lui-même qui vont lui permettre de neutraliser non pas les effets temporels de sa décision, mais un certain nombre d'effets matériels liés normalement à l'exécution de cette décision. Jean-Bernard Auby soulignait que ces réserves d'intérêt général jouent le rôle d'amortisseur de la chose jugée en conférant une sorte d'immunité d'exécution à la personne publique au nom de l'intérêt général. Autrement dit, ce sont des réserves qui autorisent l'administration, qui a été sanctionnée par le juge, à rester inactive, à faire comme si elle n'avait jamais commis une illégalité, alors même que cette illégalité vient pourtant d'être sanctionnée par le juge. Donc ces réserves sont relativement connues, elles permettent pêle-mêle, j'en donne quelques exemples, de protéger de la démolition un ouvrage public dont l'implantation s'est réalisée dans des conditions irrégulières. Elles permettent de dispenser une collectivité préemptrice de l'obligation de proposer le bien illégalement préempté à l'ancien acquéreur ou à l'ancien propriétaire, c'est la jurisprudence Bourg. Elles permettent de dispenser l'autorité préfectorale de faire procéder à la vente forcée des biens non indispensable au bon fonctionnement des services publics appartenant à une collectivité territoriale n'ayant pas exécuté une décision de justice passée en force de chose jugée. C'est la jurisprudence Société fermière de Campo Loro. Et elle permet également de ne pas annuler un contrat administratif. C'est toute la mouvance initiée par la jurisprudence tropique, travaux signalisation, qui s'est poursuivie dans les arrêts Béziers 1 en particulier et commune de Tarn-et-Garonne de 2014. Ce sont donc des mécanismes, on le voit, qui permettent de ne pas aller jusqu'au bout, en particulier dans l'exécution de la chose jugée par le juge administratif. Dernier mécanisme qui participe certainement de ce même mouvement, de la prise en compte des conséquences de ces décisions par le juge administratif lui-même, alors qui est un petit peu à part, je dirais, et qui au départ m'a un petit peu gênée ça m'a un petit peu gênée au départ que ce soit intégré avec les deux autres mécanismes. C'est ce qui concerne la régularisation. En cours d'instance. Pourquoi cela m'a un petit peu gênée ? Parce que on est ici un petit peu en amont tout de même de la prise en compte des conséquences, puisque la régularisation va permettre de ne pas sanctionner une illégalité, alors que dans les deux exemples vus précédemment, le juge mène son office entre guillemets normalement jusqu'à la sanction, et puis après il la prive de ses effets temporels, ce qui revient à la priver de ses effets, ou il en limite les conséquences en termes d'exécution. Mais tout de même, je comprends le rattachement de la régularisation à cette question de la prise en compte des conséquences, puisque dans les hypothèses de régularisation, le juge va réfléchir, bien souvent les procédures de régularisation en cours d'instance sont prévues par la loi, mais la loi, comme chacun sait ici, parfois en matière contentieuse, est largement dictée, si je puis dire, par le Conseil d'État. Donc, en matière de régularisation, la réflexion est assez simple, elle est de se dire, lorsque la correction d'une irrégularité est possible, cela est parfois préférable à la disparition pure et simple de l'acte, qui, dans l'ordre juridique, potentiellement pourrait avoir des conséquences bien plus néfastes qu'une simple correction de l'irrégularité. Donc je comprends qu'on puisse rattacher ce mécanisme à la question finalement de la prise en compte un petit peu anticipée des conséquences d'une sanction qui finalement apparaît inutile, puisque l'on peut utilement corriger l'irrégularité qui entache l'acte en question. Donc je pense que on peut assez largement considérer que les mécanismes de régularisation participent à la préservation de l'intérêt général, puisque un faire disparaître purement et simplement un acte, ça a toujours des conséquences plus graves que de le maintenir en vigueur tout en procédant à la correction de son illégalité, de son irrégularité. Mais il faut souligner, et là c'est valable pour la modulation dans le temps, pour les réserves d'intérêt général et pour les mécanismes de régularisation, que ce ne sont pas nécessairement, ce sont des mécanismes qui jouent en faveur de l'intérêt général, on l'aura bien compris, tels que définis par le juge, mais ce ne sont pas des mécanismes qui sont nécessairement favorables aux justiciables, et ce sont des mécanismes qui, de manière assez générale, affaiblissent ce que certains auteurs ont pu qualifier de fonction disciplinaire du recours pour excès de pouvoir en particulier. C'est un petit peu moins vrai pour le juge du contrat qui n'a jamais eu cette fonction. Ainsi, au terme de cette brève analyse de certaines évolutions récentes de l'office du juge administratif, il apparaît de manière assez globale que l'anéantissement et la neutralisation des actes juridiques irréguliers n'est plus que cet anéantissement et cette neutralisation ne sont plus les modes ordinaires de l'élimination des illégalités, et que le juge administratif est un juge de plus en plus pragmatique, comme il aime à se qualifier lui-même, soucieux des conséquences des décisions qu'il prononce dans le cadre d'une acception désormais dynamique du principe de légalité. Et il me semble que cela est lié à une assimilation forte entre intérêt général et sécurité juridique, qui est relativement récente à l'échelle de l'histoire de la juridiction administrative. Pour moi, il s'agit là d'un changement de paradigme dans l'office du juge administratif, tant il est vrai que traditionnellement, l'intérêt général tenait avant tout au respect de la légalité par l'administration. Je vous remercie.
Merci beaucoup d'avoir ainsi parfaitement mis en lumière ces champs nouveaux d'investissement de l'intérêt général par le juge lui-même dans le regard qu'il porte sur les conséquences de ce qu'il fait et d'avoir souligné le poids de cette l'intensité, le poids de cette évolution-là, ce changement de paradigme, avez-vous dit. Et pour moi, je crois que l'instant de bascule, j'aime bien revenir à ce terme-là, l'instant de bascule est à chercher autour de la loi de 1995, que l'on doit notamment au président Marcellon et au président Combarnous, au moment où le juge administratif s'est vu confier le pouvoir d'injonction, son regard, sa propre conception de son intervention et de son rôle a été, je crois, très profondément transformée. Et si l'on ajoute à la loi de 1995 la loi sur le référé administratif, laquelle on doit beaucoup au président Labetoul, on a là, je crois, les deux temps forts par lesquels le législateur est venu donner un surcroît de légitimité au juge administratif pour réinventer un petit peu son rôle. Madame la présidente de la section du rapport et des études a noté que nous avions entendu pleinement prendre en considération la notion d'exécution des décisions de justice, qui est un intérêt de la section du contentieux, mais que la section du rapport et des études, pour ce qui concerne le Conseil d'État, particulièrement importante. Je crois que nous sommes arrivés à peu près au terme du temps qui nous était imparti. Et peut-être, voilà, après ce vaste panorama qui nous aura montré, je crois, à quel point la jurisprudence dans la période récente sur cette question de la prise en compte de l'intérêt général, non pas à raffiner par trop les choses, mais à affiner pour beaucoup le contrôle qui est exercé par le juge administratif. Si vous n'êtes pas définitivement accablé par ce qui a été dit jusque-là, et si vous avez quelques questions à poser, je pense que c'est le moment. Vous êtes définitivement accablé, c'est ça la conséquence. Le président Reynaud.
On a une question sur Internet, monsieur le président.
Ah là.
Donc, et on nous demande, alors c'est vrai que c'est une question très, très vaste, donc qui s'adresse à tous les membres de la table ronde. N'y a-t-il pas un intérêt public, celui de la nation tout entière, tel que décrit dans le bloc de constitutionnalité, et des intérêts généraux déterminés par la loi ?
Je me retournais vers le professeur Delvolvé. Il a déjà répondu ce matin. Il a déjà répondu. Est-ce que quelqu'un souhaite s'aventurer sur ce thème-là ? Non. Monsieur le président Reynaud, il faudra les questions et les réponses.
Simplement, il n'y a pas. Enfin, déjà, on a quand même vu que l'intérêt général n'est pas uniquement déterminé par le législateur. De toute façon, donc je ne sais pas si ça a été un temps le cas historiquement, je n'en suis absolument pas certaine, mais c'est une partie de la réponse à la question, c'est-à-dire que le législateur n'est pas du tout le seul acteur aujourd'hui à pouvoir, en particulier le législateur français, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin et ce qui a été dit encore tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des éléments d'extranéité, entre guillemets, qui rentrent dans la définition de l'intérêt général. Donc sur la confrontation des deux, un et pluriel, je n'ai pas de réponse, mais sur la détermination de l'intérêt général, c'est plus du tout uniquement la mission du législateur.
On revient aux questions de hiérarchie, de conciliation et d'identification de ce qui est pertinent pour juger de ce que l'on est en train de juger. Je crois que depuis ce matin, on tourne toujours autour de ces questions-là et qu'il n'y a pas de réponse générale qui puisse être apportée, une réponse un peu abstraite à ces questions d'articulation. Il y a des réponses qui sont toujours des réponses incarnées, situées dans les configurations des litiges qui sont portés devant la juridiction administrative. Je crois que tout ce que nous avons pu dire en ce début d'après-midi allait dans ce sens-là. Monsieur le Président, Présidente Dumortier.
Une réaction spécifiquement à l'intervention de Mme le professeur Mahmoudi, tout à fait passionnante, sur la façon dont le juge administratif peut être amené à ne pas exercer la fonction qu'elle décrivait comme disciplinaire, qui peut être celle du juge de l'excès de pouvoir. J'ai le sentiment, mais c'est une réaction à votre propos, que quand le juge administratif a totalement la main sur la pesée qu'il effectue, il a cet élément-là dans sa réflexion et dans le choix qu'il opère sur ce qu'il va faire en définitive. Annuler, ne pas annuler, moduler. Dans le cas de la régularisation, le législateur a pris la main. Il a dit, lui, ce qu'il estimait devoir prévaloir. Il a dit, lui, qu'il estimait qu'on ne doit annuler que si ça n'est pas régularisable. Et donc, vous regrettez que cette fonction-là ait disparu dans la régularisation. Je crois qu'elle apparaît toujours, car malgré tout, il y a toujours cette phase d'identification de l'illégalité dans la décision, en général par un premier jugement qui commence par dire qu'il y a un problème de légalité et que s'il n'est pas résolu, il y aura bien une annulation. Mais les choses ne se présentent quand même pas tout à fait de la même façon à partir du moment où le législateur lui-même a pris la main. Il ne la prend pas toujours, c'est entendu, mais quand il a pris la main, ça a été dit, les choses se présentent de façon, et qu'il l'a prise clairement, de façon assez simple de ce point de vue-là, et le juge administratif n'a plus son mot à dire sur cette pesée, me semble-t-il.
Oui, non, mais je partage tout à fait ce que vous venez de dire, et je pense vraiment que, sur la régularisation, il y a vraiment, c'est un peu à part tout de même, à la fois parce qu'il y a une intervention du législateur, et aussi parce que tout de même, contrairement aux autres techniques abordées, il y a une correction de l'illégalité, et que sinon, c'est vrai qu'on en revient, et aussi si l'irrégularité n'est pas régularisable, on en revient, il est vrai. À ce caractère un peu disciplinaire du contentieux de l'excès de pouvoir. Mais simplement, ce qu'on peut dire, je trouve, c'est que d'une manière un peu générale, l'ensemble de ces évolutions présentées, si on veut, dans un cadre un peu global, peut donner l'impression le juge s'écarte un peu, mais c'est le cas, de cette application mécanique du principe de légalité. Mais parce que soit c'est prévu par la loi, soit c'est parce que il a des pouvoirs qui sont tellement importants qu'il ne peut pas non plus faire comme il faisait hier. Voilà. Donc moi je ne regrette pas la fonction purement disciplinaire du recours pour excès de pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui elle serait dans bien des cas absolument catastrophique. Mais je constate que tout est une question d'équilibre.
Je crois que c'est un très beau mot pour une conclusion. Je vous rends l'antenne, Madame la Présidente.